Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Paul Journet est éditorialiste à la presse. Bonjour Paul.
Salut Bernard.
Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour Carl.
Bonjour Bernard.
Soins à domicile, une histoire d'un journaliste de la presse de ce matin, là, Tommy Chouinard, qui, vient nuancer pas mal les déclarations de la ministre de la Santé, Mme McCann, qui avait l'air de dire là, tout l'argent nécessaire pour améliorer les soins à domicile sera dépensé. Là, c'est plus tout à fait ça qu'on entend.
Oui, à la dernière campagne électorale, tous les partis promettaient d'en faire plus pour les soins à domicile. Or, on a appris en décembre dernier qu'il y avait un établissement du nord de l'île de Montréal qui coupait dans les soins à domicile parce qu'il manquait d'argent. La ministre de la Santé avait dit « il n'y en aura plus de coupe. On va répondre à tous les besoins, puis le financement va être là. On va les payer, ces dépenses-là. » Et à peine deux mois plus tard, finalement, l'engagement est modifié. La ministre ne dit pas qu'elle va répondre à tous les besoins. Elle va répondre au maximum de besoins possibles. Traduction, on n'est pas capable de payer pour tout. Les besoins sont évalués à 64 millions de $ d'ici la fin de l'année financière, 213 millions de $ l'année prochaine. Écoute, c'est l'histoire qui se répète parce que c'est vrai que ça coûte cher les soins à domicile, mais
si on veut pas que les gens se retrouvent en résidence ou en CHSLD, il faut investir dans les soins à domicile.
C'est ça, parce que écoute, les CHSLD en ce moment, il y a près du quart des personnes qui sont en CHSLD qui n'ont pas besoin d'y être parce qu'ils sont suffisamment autonomes pour être hébergés ailleurs. On le sait, CHSLD, c'est pas le premier choix des gens et c'est là où c'est le plus coûteux.
Exact.
Solution logique qui va de soi, mise en plus sur les soins à domicile. C'est ça que tous les partis promettent de faire. Pourtant, année après année, on ne réussit pas à répondre aux besoins. Sous le précédent gouvernement libéral, on avait dit qu'on allait augmenter le nombre d'aînés qui profitaient des soins à domicile et que pour chaque visite, on allait passer plus de temps. Dans les deux cas, on n'a pas du tout été à la hauteur de la promesse. Dernière donnée, la protectrice du citoyen qui nous dit qu'il y a jusqu'à 18 % des aînés qui ont besoin de soins à domicile. Il y en a seulement 8 % qui en reçoivent. Je ferai un parallèle avec le système de la santé puis l'urgence. On dit toujours qu'il faut miser, avoir une approche moins hospitalo-centriste, être plus dans la prévention, etc. Puis finalement, gouvernement après gouvernement, on continue d'investir dans les hôpitaux puis dans les urgences, etc. C'est un peu la même chose avec les soins pour les aînés.
Carl?
Tu sais, dans toute la question des soins à domicile, on parle souvent des coûts et c'est vrai que quand tu regardes la facture, la comparaison, mais il n'y a pas de briques et de mortier sur lequel on doit investir pour aller faire du service à domicile, des soins à domicile, contrairement aux établissements qu'il faut construire, qu'il faut bâtir, qu'il faut entretenir. Mais il y a un problème de ressources humaines aussi.
Oui.
Parce que envoyer des gens au domicile, ça prend du temps, alors que quand ils sont tous dans un même établissement, mais c'est beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus efficace. Et là, le problème qui va survenir, c'est la période de transition. Parce qu'évidemment, le système est fait d'une façon, tu peux pas du jour au lendemain transformer, virer sur une scène et dire « Ah, on garde les gens à la maison, là, on va envoyer les gens se promener pour aller leur offrir des soins. » Ça peut pas se faire rapidement.
C'est ça. Mais le problème, c'est que ça fait des années qu'on nous dit que c'est ça qu'il faut faire. Puis les partis politiques nous disent que c'est ça qu'ils vont faire. Et visiblement, on est en retard sur les engagements qu'on prend.
Ouais. Hein,
toujours, on est un peu en arrière. OK. Parlons un petit peu de François Legault. Ça commence à faire réagir dans le reste du Canada, mon cher Carl. Les demandes de Legault auprès de Justin Trudeau, là, il commence à y avoir des envieux.
Ben oui, des envieux. Puis le plus envieux, ça semble être le premier ministre du Manitoba, Brian Palliser, qui s'en prend avec virulence, ma foi, aux revendications de François Legault. Dit que c'est de la politique de marchandage, que Legault se prend pour un kingmaker.
Il dit dans le fond, Legault soumet ses demandes à Trudeau et aux autres chefs fédéraux. Et en arrière-scène, c'est les comtés du Québec lors de la prochaine élection fédérale. Quand il parle de Kingmaker, là, il fait référence au fait que Legault se prend pour un faiseur de roi parce que c'est lui qui pourrait, par ses interventions puis par ses demandes, influencer les Québécois dans leur vote pour les prochaines élections fédérales.
Et non seulement ça, c'est qu'il influence les partis. Ça crée une espèce de surenchère entre les différents partis fédéraux. Évidemment, tout ça pour le bénéfice du Québec. Et François Legault lui dit, mais je prendrai pas parti pendant l'élection. Je veux le meilleur pour le Québec. Alors, aux partis fédéraux de livrer. Mais du côté du Canada anglais, il y a des gens qui sont, évidemment, qui voient ça, qui rouspètent, qui sont pas contents. Et d'où la sortie de Brian Palliser. D'ailleurs, il parle de l'ouverture de Justin Trudeau envers François Legault comme un manque total de respect pour le reste du Canada.
Tout à fait.
Qu'est-ce que pense François Legault de tout cela? On lui a posé la question.
Ben écoutez, c'est normal que chaque province fasse ses demandes au gouvernement fédéral. Bon, nous, on a des demandes financières, mais on a aussi des demandes pour protéger notre identité, pour protéger ce qu'on est. Donc, les demandes qu'on fait en matière d'immigration, par exemple, sont importantes pour le Québec. Sont légitimes. Et bon, je n'embarquerai pas dans les commentaires là, du premier ministre du Manitoba.
Oui, en fait, Palliser, il est-tu en train de découvrir la notion de rapport de force, lui-là? Il est-tu en train de découvrir? Non,
c'est,
mais sérieux.
C'est exactement ça.
Hein? Je veux dire, il y a 78 comtés au Québec, là. Je veux dire que.
Est intéressant dans le cas de Palliser, mais d'autres premiers ministres au Canada anglais, évidemment, ont toujours été un peu. Jaloux, disons, de la capacité du Québec à forcer les autres partis ou les partis fédéraux à bouger. Mm. Faut dire qu'au Canada anglais, les partis provinciaux sont alignés sur les partis fédéraux, grosso modo, là, assez correctement. Et donc, il y a des vases communicants et on discute beaucoup d'enjeux comme ça. Tandis qu'au Québec, c'est une autre partie. La joute est différente et les partis fédéraux n'ont pas vraiment d'alliés organiques au niveau provincial, si ce n'est que le Bloc qui, lui, est évidemment à l'avant-scène de ces revendications-là, qui a aidé à cette surenchère qui a fait que le Québec a obtenu plein de pouvoir dans toutes sortes de domaines auxquels les autres provinces n'ont pas droit.
Il faut rappeler que Palliser, c'est un conservateur, hein, premier ministre conservateur.
Son chef fédéral, Andrew Scheer, est encore plus ouvert que Justin Trudeau aux demandes de François Legault.
C'est ça.
Alors, il y a un contraste ici.
Bien, c'est ça, j'ai hâte de voir. Mm. Scheer va peut-être se faire chauffer les oreilles par les conservateurs de l'Ouest, comme Palliser, s'il prend trop d'engagement pour le Québec, là, s'il promet trop d'autonomie envers le Québec, Paul?
Oui, puis on a déjà commencé à le voir dans la couverture médiatique dans le reste du Canada. Entre autres, il y avait une chronique d'Andrew Coyne dans National Post.
Qui est un chroniqueur très influent, oui. Qui participe plusieurs fois par semaine à la grande table ronde politique du National sur les ondes de CBC. Oui.
Puis il lui manquait de mots pour déchirer sa chemise, pour dire à quel point ça avait pas de bon sens, puis c'était épouvantable le marchandage politique au Québec. Mais écoute, ces critiques-là sont absurdes. Là. En gros, on reproche aux politiciens faire de la politique. On reproche aux électeurs québécois de ne pas être lobotomisés et de réfléchir à chaque élection pour qui ils vont voter. Donc, pas avoir un vote acquis pour un parti. Puis, on reproche au Québec de ne pas fermer sa gueule et puis de demander quelque chose. Ça peut avoir l'air absurde, c'est ça. Ouais. Mais ça peut avoir l'air absurde sur le fond, mais je suis sûr que ces critiques-là fonctionnent. Là. Quand je parle des critiques, je parle de celles de M. Palliser puis d'autres politiciens provinciaux parce qu'on voit qu'il y a un écho assez fort médiatique dans le reste du Canada qui se dit, ben coudonc, pourquoi vous demandez quelque chose?
Non, mais ça va nourrir le Québec bashing, là, c'est sûr. Là. Ouais. Le discours que les Québécois sont une gang de branlards puis qu'ils sont jamais contents de rien, c'est sûr qu'une sortie comme celle de Palliser puis des chroniques comme celle de Coyne vont venir nourrir
le message, c'est fermez vos gueules puis faites rouler l'économie.
Ouais. Puis accepter.
Ouais, sur les deux points, je suis en totale contravention, mais à coup de pas.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Je fais rien pour
l'économie. C'est un méchant délinquant. Puis je pense que ça aiderait aussi si on acceptait un pipeline de plus sur notre territoire.
Ah ben ça, c'est l'autre point qui a été soulevé par Brian Palliser. Il dit, vous voulez tout au Québec, mais quand c'est le temps de construire des projets pan-canadiens comme Énergie Est, vous êtes contre. Évidemment, là, ben, dans les provinces de l'Ouest particulièrement, on voit ça comme un gros problème.
Voilà. OK. Parlant de François Legault, il faut quand même parler un petit peu de sa dernière journée à Paris. C'était sa journée économique. Alors, un gros discours à la Bourse de Paris, Paul.
Oui, je retiens deux choses. La première, il a dit qu'il allait modifier l'approche du Québec dans les relations internationales. En gros, ça va être d'abord et avant tout l'économie. Je pense qu'on peut l'entendre.
La politique internationale du Québec prendra un virage résolument économique. Je veux être bien clair, il n'est pas question de soustraire, mais plutôt d'additionner. d'en faire plus en bâtissant sur les fondations qu'on a aujourd'hui.
Très bien.
Ouais, il dit pas question de soustraire, mais bon, c'est pas tout à fait vrai. Avant, l'attention était accaparée en bonne partie par la dynamique Québec-Ottawa, mouvement indépendantiste, mouvement fédéraliste, chacun négociait ses allégeances. On est rendu dans un autre contexte politique, donc forcément, si on parle moins de la question nationale, il y a plus de place pour parler de l'économie.
Et donc l'importance relative du politique a diminué. Donc
l'économie peut prendre toute la place, même si c'est pas tout à fait neuf. Là, les dernières missions des premiers ministres, là, autant Mme Marois que M. Couillard, là, surtout M. Couillard, les gens ont commencé à être vraiment axés sur l'économie.
Exact.
L'autre chose que je retiens, il a pas encore donné tous les détails de son plan, mais il commence à nous dire un peu où il s'en va. Donc, il veut que Investissement Québec, la Caisse de dépôt et les délégations du Québec à l'étranger travaillent ensemble pour être plus agressifs dans la prospection d'investissement. Mm-hmm. Et aussi, il dit qu'il va ajouter des ressources. Et ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle.
Des ressources, ça veut dire des fonctionnaires d'une délégation.
Oui. Puis il faut faire la distinction entre une dépense puis un investissement. Si, évidemment, dans l'hypothèse où ces gens-là font bien leur travail, quand tu dépenses pour avoir un peu plus de personnel dans les missions à l'étranger, c'est des gens qui vont te permettre d'aller chercher des investissements, donc de générer des revenus. Donc, c'est une dépense pour aller faire de l'argent. Ça s'appelle un investissement.
Legault dit d'ailleurs qu'il va leur donner des objectifs aux délégations. Ouais. Il va avoir des objectifs chiffrés.
Ça, c'est très Legault, là, cette approche-là.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que tu amènes la notion d'investissement. S'ils embauchent, mettons, 2-3 fonctionnaires de plus, 2-3 agents économiques, comme ils les appellent, de plus dans la, je sais pas, la délégation québécoise en Allemagne, puis que ces trois personnes-là rapportent X millions d'investissements sur 2 ou 3 ans, ben il pourra dire que c'est un investissement.
Oui, puis
si c'est pas le cas, ça va devenir une dépense.
Il y a peut-être du monde qui nous écoute.
Un concept très corporatif, ça, le concept de retour sur l'investissement. C'est ça. L'approche de Legault, c'est ça.
C'est ça. Oui, puis il y a peut-être du monde qui nous écoute, puis ils disent, ah, ils sont gros durs dans les délégations à l'étranger, là, ils ont des joueurs de lire pendant qu'ils se font nourrir à la grappe fraîche.
Mais c'est pas tout
à fait
lire.
Ça. Le MRI, le ministère des Ressources internationales, est tout petit. C'est 0,1% du budget de l'État. Or, à chaque fois qu'on essaye de réduire les dépenses, qu'il y a des compressions, on va les saigner. Leur budget a été réduit de près de 25% dans la dernière décennie. Donc, ils fonctionnent. C'est des économies de bout de chandelle sur le dos des tout petites équipes qui travaillent à l'étranger pour générer des revenus. Donc, c'est pour ça que si on ajoute des ressources, même un peu, tant mieux. Et en terminant aussi, M. Legault a dit que il veut que. On lui a demandé si c'est une vocation d'abord et avant tout économique, est-ce que vous allez mettre juste des gens qui ont un profil économique à la direction des délégations générales? Lire entre les lignes, est-ce qu'il y a du monde qui vont perdre leur job? Par exemple, Lynn Beauchamp, c'est pas une formation de femme d'affaires, c'est plus fait connaître dans le communautaire avant d'avoir une carrière politique. Jean-François Lépine, même chose, c'est un journaliste avant qu'il soit en Chine,
même si expertise.
Exact, c'est ça. Puis M. Legault dit que dans les deux cas, c'est vrai que c'est pas des gens qui ont une formation de business, pardonnez-moi l'anglicisme, mais ils ont réussi à développer une expertise là-dedans. Ils ont un bon réseau de contacts.
Donc,
leurs têtes ne rouleront pas.
C'est ce que tu as compris?
C'est ce que j'ai compris. Mais des fois, Bernard, ce que je comprends puis la réalité.
Non, il ne faut pas te sous-estimer, Paul. En général, ta moyenne est bonne. C'est pour ça que tu es à ce microphone.
Merci. Je pensais que tu avais trouvé personne d'autre.
Ben voyons donc. Parle-nous donc, mon Carl, de cette grosse prise pour les conservateurs. Là, ils commencent.
C'est une grosse prise, oui.
Ils commencent à avoir une assez belle brochette de candidats et de candidates pour les prochaines élections. Là.
Et le dernier en liste, c'est le maire de Montréal-Est, Robert Coutu, qui se présentera pour le Parti conservateur dans la Pointe-de-l'Île. La Pointe-de-l'Île, c'est le comté de l'ancien chef du Bloc, Mario Beaulieu. Donc, on vise un comté bloquiste.
Oui.
C'est une grosse prise parce que...
Puis Beaulieu va se représenter, c'est clair. Beaulieu va se représenter, bien sûr.
Dans le cas de Robert Coutu, il est maire de Montréal-Est depuis une décennie, environ 10 ans, je pense.
Pis c'est un gars qui a beaucoup défendu l'industrie pétrochimique de l'Est. Et je pense que l'une des raisons, sinon la raison pour laquelle il se présente avec les conservateurs, c'est que lui, l'industrie du pétrole là, que pousse Scheer, il est d'accord avec ça, lui?
Ben oui, il est d'accord avec ça, parce qu'évidemment, c'est des emplois pour son coin.
Ben oui.
Il y a tout à fait une compréhension de la vision d'Andrew Scheer là-dessus. Et pour les conservateurs, c'est intéressant parce qu'évidemment, on veut répéter un peu le modèle de Chantal Rouleau. C'est-à-dire faire une percée en ciblant un comté avec quelqu'un qui vient du municipal. Et là, c'est sur quoi on mise du côté du Parti conservateur. Parce qu'écoute, on va se le dire, le Parti conservateur a un gros problème urbain. C'est vrai dans toutes les grandes villes du pays, à l'exception des prairies.
Donc, en allant chercher des maires comme le maire de Montréal-Est, on peut espérer peut-être concurrencer les libéraux. Je pense que ça va être les libéraux, là, selon les derniers sondages.
Oui, bien écoute, ça va être peut-être une course à quatre, ce comté-là. Parce que c'est l'NPD qui l'avait jusqu'en 2015. Mario Beaulieu est là, le Parti libéral est là, d'accord, dans ce comté-là. Mais ailleurs, en ville, c'est sûr que c'est avec les libéraux qu'on veut concurrencer. On n'a pas toujours été en mesure de le faire. Au centre-ville, en banlieue, ça va. Mais au centre-ville, ça nous prend des grands candidats. Regarde à Outremont, on a une étudiante en droit, là, Jasmine Loura, qui se présente pour le Parti conservateur. C'est pas quelqu'un qui va brasser des cartes très, très fort dans ce comté-là pour le Parti conservateur.
En tout cas, c'est clair, c'est qu'il recrute beaucoup dans le milieu municipal. Il y a l'ancien maire de Rouyn-Noranda, si je me trompe pas, qui va se présenter pour les conservateurs. Le maire de Trois-Rivières, bon, ben là, il a quitté ses fonctions. Yves Lévesque, est-ce qu'il va être candidat pour les conservateurs? Il en avait été très, très, très question et il pensait sérieusement.
Ça dépend de son état de santé.
Ça va dépendre. Paul Journet, éditorialiste à la presse, Carl Bélanger, consultant stratège. Merci à vous deux.
À demain.
À demain. Salut.